Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. Au programme aujourd'hui, le film bollywoodien Devdas de Sanjay Leela Bhansali et la cérémonie des Césars 2022. Et si le cinéma est une religion, alors ils en sont les apôtres, c'est l'équipe de Vitamine Ciné qui est de nouveau, enfin, au complet, pour vous accompagner pendant la prochaine heure et demie. Et comme d'habitude, laissez-moi vous les présenter. Après avoir passé Noël en isolement, j'ai écrit cette intro il y a 3 mois, je le rappelle. Après avoir passé Noël en isolement et s'être infligé Haters de Kev Adams, sa force mentale n'a peut-être d'égal que Shah Rukh Khan. Bonsoir Lucas.
Bonsoir Nicolas.
Sa voix est douce et sucrée, comme une cuillère de miel, un peu à l'instar de Shah Rukh Khan. Bonsoir Louis.
Bonsoir Nico.
Aventurière de la clap et personnage de véritable icône dans son pays narbonnais, c'est un peu la Shah Rukh Khan de Roquefort-les-Corbières. Bonsoir Adeline.
Bonsoir Shah Rukh Khan.
Enfin, il n'est pas le King d'Hollywood, mais le King of Radio Campus Paris. C'est évidemment un égal de Shah Rukh Khan dans son domaine. Bonsoir Victor.
Bonsoir Nicolas.
Et on salue aussi une mystérieuse invitée qui ne parlera pas, mais qui est là pour nous soutenir dans cette épreuve.
Est-ce que c'est Shah Rukh Khan ?
C'est peut-être Shah Rukh Khan. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler d'un certain acteur bollywoodien et d'un film indien. Mais auparavant, il va être question d'une cérémonie qui a eu lieu hier soir pour nous, il y a même seulement quelques heures, mais il y a plus d'un mois si vous nous écoutez en direct. Et pour rappel, ça ressemblait à ça.
Chacun sa partition quand les rêves nous retardent. La vie inspire l'auteur inspire la vie.
Bien sûr, j'aurais pu rester mannequin, mais un destin d'actrice m'appelait.
Regardez, nous faisons coucou à Benoît Magimel, mais il ne nous voit pas.
Coucou Benoît Magimel.
C'est un immense cadeau, là. Je suis très 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 heureux. Je sais pas comment exprimer ce que je ressens. Peut-être par un petit pas de danse. Je sais pas.
Dans nos yeux de spectatrice, il n'y a pas de frontière entre premier et second rôle.
Un film de long métrage d'animation, c'est un très 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 long film.
C'est pas sympa.
Non, c'est pas moi. C'est pas moi.
Non, ça c'est pas sympa. C'est pas sympa parce que nous on n'a pas droit à la meilleure musique. On n'a pas droit à l'adaptation. Donc on va tout réunir en une fois.
Leur vocation, c'est de prendre toute la place. Et pour leur résister, il faut une volonté politique. Et c'est d'abord votre rôle. À vous, les décideurs. Donc.
Hey, descends avec moi. Ne parle pas sur ce ton-là.
Et donc, c'était un petit résumé de la 47e cérémonie des Césars. Comme d'habitude, c'était très long. Ça a duré 3h40. Et il y avait beaucoup de blagues qui nous ont pas fait rire. Donc j'ai envie de vous demander, chers camarades, qu'avez-vous pensé de cette cérémonie des Césars ? Je commence par toi, Lucas.
Bon, bah, ça fait maintenant 3 ans, je crois, qu'on commande chaque année cette cérémonie des Césars et qu'on fait nos commères chaque année, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une cérémonie, je trouve, qui a pris beaucoup moins de risques que les dernières fois en termes d'humour ou de gag ou d'événements. Limite, le truc le plus risqué, c'était cette apparition soudaine de Marie Saint-Filtre. Alors, je sais pas du tout si c'était prévu ou pas.
Je pense pas.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas drôle. Mais si c'était pas prévu, en tout cas, bravo à ses talents d'infiltration, ça c'est sûr. Mais pour le reste, je sais pas. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bah écoute, voilà, c'était assez plat, que ce soit au niveau donc de l'humour, comme je l'ai dit, ou des choix de récompense. Même si c'est un vote collectif de plusieurs milliers de votants, donc il n'y a pas un jury qui a décidé comme ça d'être plat. Mais bon, on reviendra peut-être un peu plus tard sur ce qu'on a pensé sur chacune des catégories.
On peut dire déjà que ton chouchou n'a pas été récompensé, malheureusement.
Onoda ?
Gilles Lelouch.
Ah, Gilles Lelouch, pardon. Ouais, c'est une honte. Je compte envoyer un mail. Oui, parce que bah, vous aurez une imitation peut-être tout à l'heure, parce que pour moi, c'est... le meilleur rôle de sa vie et peut-être le meilleur rôle de l'histoire du cinéma français qui était présent hier. Et c'est une honte qu'il n'ait pas été récompensé.
Ben, j'espère vraiment qu'on aura le droit enfin à cette imitation.
Je rigole bien sûr, je suis soulagé qu'il n'ait rien gagné. Je n'ai rien contre lui, mais contre sa performance dans Bac Nord 1, pour ceux qui n'avaient pas compris, qui est une prestation de Gilles Lelouch tout à fait spéciale et tout à fait à lui. Mais donc c'est Benoît Magimel qui a gagné Benjamin Magimel. Benoît Magimel. Oh putain,
Benoît.
On n'a pas beaucoup dormi. qui a gagné. Personne s'y attendait pour le coup.
Oui.
Mais je suis plutôt content parce que j'aime bien cet acteur. Je crois j'avais adoré sa prestation dans Une fille facile. C'était un rôle secondaire, mais il arrivait vraiment à incarner quelque chose. Je crois que c'est quelqu'un de très humble aussi. Bon, évidemment, il y a ses déboires de la vie personnelle, mais ça, c'est autre chose. Mais je sais pas, j'ai de la sympathie pour lui et je suis content qu'il ait gagné, même si c'est vrai que je voyais plutôt pour le coup Damien Bonnard pour sa prestation dans Les Intranquilles qui était super. Mais bon, voilà, après c'est les Césars.
Oui.
C'est ceux qui gagnent sont jamais ceux qu'on.
Tous les ans, on vient déçu des Césars, mais au final, est-ce qu'on en attend grand chose? Je ne sais pas.
Mais exactement, je crois que j'ai lu un article qui disait que c'est un peu un syndrome de Stockholm. Genre, chaque année, on oublie que ça va être nul, en fait, que ça va être long, que je pense aussi, internationalement. Enfin, cette année, je me suis vraiment posé la question, je pense, avec la présence d'Adam Driver aussi, de la question internationale des Césars, qui est vraiment notre cérémonie la plus bof qu'on puisse avoir, alors que sur un thème qui pourtant est quelque chose qui nous représente beaucoup en tant que Français, qui est le cinéma et qui devrait être quelque chose
de glamour
et d'assez classe, et un truc assez niche, enfin en soi un truc assez intéressant, et en fait c'est un enfer sur Terre, j'ai l'impression que vraiment...
C'est pas plus bof que les Oscars.
C'est bof, je trouve que c'est aussi bof que les Oscars, mais il y a quelque chose de très étrange parce que c'est très ancré sur des connaissances de la télévision française presque, qui sont José Garcia, enfin que des trucs comme ça, et en fait j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose où tout le monde s'en fiche, et c'est finalement assez cool, parce que quand on pourra après développer sur toute la cérémonie, mais rien que le film d'introduction, j'étais là, en soi il n'y a rien de plus césaresque que faire un truc comme ça, et y a vraiment un jeu, je trouve, de nullité dans les Césars qui est beau, en fait, c'est un beau geste, je trouve.
Et c'est dommage qu'il y ait deux personnes en particulier, notamment ceux qui ont gagné le prix pour le Sommet des Dieux, qui étaient là pour revendiquer quelque chose et dénoncer le fait que les films d'animation soient considérés seulement comme des films d'animation, qu'importe leur genre, qu'importe, enfin, ils sont pas nommés pour la meilleure réalisation, la meilleure musique, etc. Et alors lui, il a pris son temps, c'était un peu long son discours, mais c'était nécessaire. Et lui, donc, tout le monde rigolait de ce qu'il faisait, de Conn lui tirer son pupitre en disant « Bon, allez, c'est trop long, etc. » Tandis que oui, quand José Garcia vient jouer de la trompette, bah là, tout le monde rigole, tout le monde est là, alors que c'est beaucoup trop long. Clairement, ça n'a pas grand-chose à faire, là. Toi, Louis ?
Bah, comme tu l'as dit hier, on s'est échangé quelques messages. C'est une soirée qu'on adore détester. Et c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait ça. Comme l'a dit Lucas aussi, ça a été plus édulcoré, plus sage cette année. Je pense que vu les éditions précédentes, voilà, ils n'ont pas voulu prendre trop de risques. Donc au final, c'était plus long que gênant, même s'il y a eu des petits moments gênants. Malgré tout, je suis quand même très content qu'Annette, qui était donc l'un de mes films préférés de l'année passée, ait remporté autant de Césars. Je mettrai un petit bémol, on en avait déjà parlé en faisant notre rétrospective de l'année sur la catégorie documentaire, pas très fournie cette année. Et également sur le cinéma de genre français, qui est un cinéma qui est en pleine effervescence, qui est très intéressant et qui n'a pas été récompensé durant cette cérémonie. Je pense d'abord à Titane, même s'il n'y avait pas beaucoup de nominations, mais pour une Palme d'Or, on pouvait s'attendre à ce que Julia Ducournau ou son équipe montent sur scène. Et je pensais également à La Nuée. Alors là, on a un petit différent avec Nicolas, je l'ai rattrapé récemment. Et je trouvais que c'était un très bon, c'était dans la catégorie premier film. Je trouvais que c'était un très très bon premier film, parce que très angoissant, donc très réussi pour moi. J'étais vraiment angoissé, la montée en tension durant le film assez bonne, assez efficace. Et dans cette catégorie, il y avait aussi un autre film que j'aime bien, que Lucas aime bien aussi, c'était Gagarine, le très poétique Gagarine, avec des plans absolument magnifiques. Et pour le coup, je trouvais que c'était la catégorie peut-être la plus intéressante cette année, la catégorie du premier film. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on a un bon cru de nouveaux films et de nouveaux réalisateurs français cette année.
J'ai déjà oublié qui a gagné premier film.
Les magnétiques.
Oui,
que t'avais vu, toi.
Oui, bah, du coup, les deux. J'avais vu Gagarin, que j'avais beaucoup aimé. J'espérais aussi que ça soit lui qui gagne le prix, car je pense que c'était amplement mérité. Les magnétiques, oui, bah, on l'avait vu avec Lucas, la quinzaine des réalisateurs. C'était un film assez sympathique, hein, mais que. Notamment sur toute la question du son, parce que c'est un film qui parle de radio, donc évidemment, c'est un film que j'ai. C'est un aspect que j'aime bien, ça parle aussi de guerre froide,
t'aimes
etc.
T'aimes bien la radio, Nico ?
Oui, j'aimerais bien en faire. Mais c'est un film qui avait les défauts d'un premier film, quoi, qui était un peu trop naïf, qui se perdait au bout d'un moment sur son sujet, et qui au final délaissait peu à peu l'univers de la radio dans mes souvenirs pour parler d'une histoire d'amour. Je me rappelle de cet écran qui s'était éteint en plein pendant le film à Cannes. Voilà, on pensait que c'était... l'écran devenait tout noir, donc ça aurait pu être en jeu avec le son, et pas du tout. Donc voilà, mais c'est un film aussi, c'est marrant parce que personne n'en a parlé, j'ai l'impression, des magnétiques. C'est un peu passé inaperçu.
Quand il est sorti, il y a eu un bon effet quand même, un bon effet de bouche à oreille, mais c'est vrai que ça n'a pas fait de, non plus le buzz, mais c'est pas non plus ce qu'on demande forcément à un film pour qu'il gagne. Mais c'est vrai que la catégorie cette année était hyper relevée. Bon, Gagarine, tu l'as dit, les magnétiques, la nuée, la panthère des neiges, et puis surtout Slalom aussi, dont j'avais parlé ici au cours d'une émission, qui vraiment pour un premier film, c'était assez impressionnant, donc qui se passait dans l'univers du ski, mais qui traitait du harcèlement sexuel et de l'autorité que peuvent avoir les profs de sport sur leurs jeunes élèves, malheureusement.
Et tu avais parlé de très belles scènes de ski.
De ski, ouais.
Et depuis, je l'ai rattrapé, ce film, et c'est que c'est impressionnant, même. Ça se voit pas que c'est un premier film, par exemple. Et c'est presque un film de genre, en fait, déjà, en soi. Il y a des moments d'horreur, il y a des moments de sport, d'action. Donc oui, c'est dommage, on vous recommande de voir tous ces premiers films.
Mais c'est pour ça, ouais, moi j'ai trouvé un peu déçu que le film de genre, qui pourtant ouais, connaît une belle effervescence en France, n'ait pas été représenté, en tout cas récompensé hier au César.
Bah, notamment Bac Nord, qui est vraiment le film de genre par excellence, un film d'action, nerveux, etc., qui était un peu le grand chouchou et qui est parti totalement bredouille.
Mais je pense que c'est pas plus mal.
Alors, c'est un film que j'ai bien aimé, hein, pour le coup, mais qui est clairement n'est pas vraiment sa place au milieu de tous ces films.
Et je voudrais avoir votre avis sur le César du meilleur film étranger. Ça a été Phaser. Moi, j'étais très étonné. C'était peut-être celui de la liste qui m'enchantait le moins. Je sais pas trop.
Bah alors, c'était très compliqué parce que.
Toi, Lynn, je sais que t'avais un grand favori.
J'avais un grand favori, mais même pour autant, alors on peut reparler aussi de. Alors, peut-être que tu peux citer les nommés, mais.
Oui, il y avait Compartiment numéro 6, oui. Donc je faisais référence à celui-là comme ton favori. Drive My Car, superbe, superbe film. First Co, alors je l'ai pas vu, mais je sais que vous l'avez vu, Lucas et.
Non, moi j'ai pas vu.
Non, Lucas. Ah non, mais j'ai cru que vous le voyez au Festival de Cannes.
Non, il y avait un film qui s'appelait. Co.
Co.
Ah, ouais, alors j'ai confondu autant pour moi.
Arnold.
Julie en douche chapitre.
Ah oui.
J'étais assez mitigé, mais finalement je me suis dit qu'il aurait pu remporter le César. La loi de Téhéran, un film absolument magnifique et bouleversant aussi. M'adresse parallèle, c'est un peu. On l'avait cité, je crois, un peu dans nos flops de l'année. En tout cas, on a.
J'avais dit que c'était un flop dans le sens où j'aime tellement Almodovar que c'était.
Voilà, on avait une grande attente.
Mais ça reste un film tout à fait.
Et enfin, The Phaser qui a remporté l'Oscar.
Bah, du coup, je suis assez d'accord avec toi, Louis, parce que. Et notamment sur les compétitions. Sur le fait qu'il y avait des nominations qui étaient intéressantes pour les premiers films et pour les films étrangers, parce que le reste était très consensuel, donc du coup ça donnait un peu un second souffle en fait à la cérémonie aussi, parce que c'était des films différents. Je pense que c'était un peu lourd de se dire que tout le temps les nommés étaient les mêmes, enfin les films étaient les mêmes. Et donc là, pour le coup, en fait, pour le meilleur film étranger, je trouvais que c'était un peu dommage, parce que effectivement The Phaser a été fait en Angleterre, toute l'équipe est anglaise, mais Florian Zeller, alors mais à coup de pas, je ne sais qu'elle ne m'écoutera pas, mais ma colocataire a fait son mémoire dessus. Donc forcément, une partie de moi m'oblige à dire que j'ai beaucoup aimé ce film, qui en soi était très intéressant, qui est un film qui est très bien fait et qui est très intéressant, mais pour autant, qui ne rentre pas pour moi dans la catégorie meilleur film étranger, parce que c'est un film qui nous est très commun en soi, et je trouvais que pour le coup, par rapport à cette catégorie-là, un film comme Compartiment numéro 6 qui est vraiment sur la question du voyage, enfin la question de vraiment de l'étranger, enfin je trouve que il y a aussi une question, et ce qui est un vrai problème sur les Césars, j'aimerais peut-être en revenir après, c'est sur la question des catégories. Qu'est-ce qu'on entend par catégorie? Parce qu'en fait le meilleur film étranger, effectivement, c'est du coup des réalisateurs étrangers ou faits à l'étranger, mais pour autant aussi il y a une question aussi de
Florian Zeller, il est français, non?
Florian Zeller est français, mais toute la production est anglaise en fait. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a toute une question aussi de qu'est-ce que ça fait ressentir par rapport à la France. Enfin, je trouve que la catégorie film étranger, c'est un peu fourre-tout. Parce que finalement, 5 nominés pour une catégorie où juste le bon vouloir, c'est d'être pas fait en France.
Après, quoi. Si je me trompe pas, c'est une catégorie qui existe aussi dans les autres cérémonies à l'étranger.
Bien sûr, mais c'est vraiment une question de catégorie qui est un peu bâtarde en soi, je trouve. Mais pour le coup, je trouve que Compartiment numéro 6 méritait largement de gagner.
Un film qui n'a eu qu'une récompense malheureusement, mais qui de toute façon n'était pas nommé dans beaucoup de catégories, c'était évidemment Onoda. Est-ce que Louis, d'ailleurs, tu as pu le voir depuis? Ah, alors qu'en as-tu pensé
au DVD? Un peu long, surtout que du coup je ne l'ai pas vu au cinéma, ce qui m'a peut-être pas perdu par moment, mais un peu lassé par moment. Je pense que j'aurais dû, même pour le son, pour l'image, j'aurais préféré, je pense, le voir au cinéma. Mais un excellent film. Et quand j'ai vu qu'il était nommé dans la catégorie du meilleur scénario original, je me suis dit, ok, ça va être lui et ça doit être lui. Parce que, bah, en effet, quel scénario que de prendre cette histoire comme départ pour le film.
Et petite anecdote, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a un cinéaste qui t'est cher et qui nous est cher à tous, qui s'appelle Werner Herzog, qui va sortir l'année prochaine un livre sur Onoda.
Bah, ça m'étonne pas, c'est des univers assez proches finalement. En le voyant, en effet, j'ai pensé à Herzog, je pense qu'il doit y avoir une influence, en tout cas, non, pas douter. Et en effet, j'ai retrouvé du Herzog dans ce film, c'est vrai.
C'est un film très beau et je suis assez contente qu'il ait eu le scénario, parce qu'en soi, enfin, il y avait beaucoup de catégories dans lesquelles je pensais qu'il pouvait rentrer en compte. Mais le scénario, en fait, c'était très fort, parce que c'est vrai que c'est un beau film, en fait. Et c'est un film dont le scénario est intéressant, dans la façon dont il déroule l'histoire. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu autant de récompenses. Et encore une fois, je trouve que c'était une cérémonie qui était très consensuelle. Et on en reparlera, il y avait un bingo sur internet qu'on pouvait trouver sur les Césars. Et
je crois qu'il y avait tout à cocher. Hein.
Vraiment, il y avait tout à cocher et des catégories auxquelles on ne pense pas. Enfin, des choses auxquelles on ne pense pas et que quand on voit, on se dit c'est vraiment très grave quand même.
Mais pour revenir sur Onoda, en effet, dans une cérémonie qui a récompensé des films très consensuels, celui-là l'est beaucoup moins. C'est un film qui prend son temps et ça fait du bien. Je sais que vous savez maintenant que j'aime les films justement qui prennent leur temps. Et justement, j'aurais aimé qu'il ait plus de récompenses. Mais bon, Harari est monté une fois sur scène, a eu un très beau discours.
Oui.
En rappelant que voilà, je crois que sa formule c'est on ne va pas au supermarché pour acheter des émotions, en référence aux différentes plateformes de streaming, et puis un appel à aller en salle et à produire ce que les plateformes ne veulent plus produire.
Clairement, Onda, oui, comme tu le disais, c'est un film à voir au cinéma pour vraiment s'immerger dans cette ambiance et dans ce cocon qui est très long mais qui est totalement en rapport avec le sujet. Et c'est vrai qu'un film comme ça, qui aurait été par miracle produit par Netflix par exemple, il aurait eu le même sort qu'un The Irishman qui est long et qui est vu par les gens par petits bouts, qui n'est tout simplement pas vu. On peut peut-être finir par parler du film qui a quand même fait, qui a eu je ne sais plus, 6 ou 7 récompenses toute la soirée, qui est Illusion Perdue.
7 il me semble.
Louis, tu ne l'as pas vu non plus, mais Lucas et Adeline, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous en avez pensé de ce film qui du coup a été le grand favori et peut-être le choix du consensus?
Bah, en soi, c'est un film qui coche toutes les cases puisque c'est un film en costume, adaptation, un film avec beaucoup d'acteurs qui sont assez prestigieux et du coup c'est un film qui en soi est consensuel puisque et qui en même temps prend des risques parce qu'une adaptation de Balzac, donc on le rappelle, les Illusions Perdues, c'est un livre de Balzac, et en fait, c'est une adaptation qui est bien jouée, c'est bien menée, etc. Mais c'est un film qui est, en tout et pour tout, un bon film. Mais pour moi, c'était pas un film qui méritait d'être primé dans certaines catégories, notamment le costume, parce que finalement, primer un film en costume, c'est intéressant, mais en soi, je trouvais pas que le costume était très impressionnant dans ce film. Je trouvais pas que... certaines choses, pour moi, méritaient pas d'être primées quand on peut primer d'autres films. Pour autant, pour moi, c'était pas le meilleur film de l'année. Mais c'était un bon film. J'étais très contente pour Vincent Lacoste et Benjamin Voisin. J'ai été vraiment heureuse qu'ils aient des prix. Après, meilleur film, je pense que quand même, ça le méritait pas.
Il y a aussi une catégorie qu'on a failli oublier. Ah pardon, Lucas, est-ce que tu avais...
Non, mais je suis d'accord sur le fait que voilà, c'était un bon film, mais qu'il y avait quand même autre chose, je pense, de beaucoup mieux à récompenser dans la catégorie meilleur film. Je suis moins d'accord sur la question des décors et des costumes. Enfin, justement, c'est pas parce que c'est pas flamboyant et que ça tape pas à l'œil, mais je trouve ça quand même assez impressionnant au niveau de la reconstitution. On se sent vraiment immergé dans l'époque, donc... Je suis moins d'accord là-dessus. Je pense qu'il fallait, pour le coup, le récompenser. Et puis, pareil, je suis aussi très content pour Benjamin Voisin, qui a donc eu le César du meilleur espoir. Ça semblait peut-être trop évident. Du coup, peut-être que certains ont pu être déçus, mais c'est quand même une sacrée pépite qu'on a là.
Par contre, je tiens à rétablir une vérité. Benjamin Voisin n'est pas du tout belge. Et il nous a fait son meilleur accent belge pendant tout son discours de récompense. Et ça m'a vraiment profondément choquée. J'étais là, mais il n'est pas belge? Et il est né à Paris, voilà. Si tu nous écoutes, t'es un gros monteur.
Eh ben écoute, on espère qu'il nous écoute, hein, avec tous les auditeurs qu'on a. Tu parles d'accent, il faudrait aussi parler de l'accent québécois.
C'est
Valérie Lemercier qui a eu le César de la meilleure actrice pour un film que tu es la seule ici à avoir vu.
Et alors, du coup, pour revenir sur les costumes, je pense que c'était aussi ce film-là qui aurait dû gagner les costumes parce que vraiment, alors j'invite tous les auditeurs à aller voir ce film, Aline, notamment pour la prestation de Valérie Lemercier. Son discours était très touchant, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Très triste aussi par rapport à ses parents et par rapport à la reconnaissance qu'on peut avoir sur un film.
J'avoue que j'avais totalement décroché de la cérémonie à ce moment-là.
Et ben, bon, après moi je l'ai regardé ce matin en mangeant mes céréales Lyon, mais si vous voulez tout savoir. Mais en fait j'ai trouvé que c'était vraiment c'est un film intéressant sur plein d'aspects. Vraiment Valérie Lemercier, tu sens qu'elle s'est un peu saignée sur une adaptation qui est pas mal, enfin l'adaptation d'une vie, un biopic, qui est complètement détournée, qui est toujours très intelligent. Moi, j'y allais plutôt sceptique. Encore une fois, nous allons reparler de ma colocataire, mais une grande fan de la grande Céline. Et moi, pas du tout. Aucune connaissance sur sa vie, aucune connaissance sur ses musiques. Et pour autant, c'est vraiment un film qui, en termes de décor, en termes de qualité, d'archives, de travail, en fait, ça reprend des archives dans le film, notamment la première télévision française de Céline Dion, c'est avec Michel Drucker. Ils ont inséré, en fait, toute l'archive, etc. C'est un travail qui est impressionnant et qui méritait d'être souligné.
C'est pour ça, du coup, qu'elle était aussi en compétition dans les meilleurs effets numériques.
Bah oui,
j'étais assez étonné, moi, qui ne l'ai pas vu, du coup, de me dire, ah, il y a des...
Parce que le gros parti pris, en fait, du film, qui est très étrange, c'est que, dans un biopic sur Céline Dion, Valérie Lemercier incarne Céline Dion de ses 6 ans à maintenant. Et en fait, du coup, tout est fait en FX. Enfin, et il y a... Et la première scène, c'est une Valérie Lemercier de 6 ans qui chante complètement fait par numérisation et c'est hideux. Enfin, c'est vraiment horrible. Et en fait, après réflexion, j'ai trouvé que c'était le meilleur move du cinéma français cette année parce qu'en fait, ce n'est pas un biopic du coup. À aucun moment, ça peut être considéré comme un biopic parce que c'est une adaptation de Valérie Lemercier sur la vie de Céline Dion et du coup, ça devient un truc très intelligent parce qu'en fait ça n'a pas de prétention et pareil on a noté le fait que elle n'était pas québécoise et qu'elle pouvait pas jouer et en fait c'est du coup encore plus intelligent parce que il y a quelque chose où il n'y a pas de prétention à faire un film qui et on pourra en parler mais des films comme des Elvis comme des Rocketman ou des choses comme ça où il y a une vraie prétention à élever un truc une idole en fait et là c'est vraiment plus son regard et en fait c'est bon pour la petite histoire Céline Dion n'a pas voulu voir le film. Et en fait, ça lui fait vraiment très mal, et je comprends, parce que c'est un vrai hommage de fan. Et je vous invite vraiment à le regarder, parce que c'est un hommage vraiment à la passion qu'on peut avoir sur un personnage.
Ben, merci, tu nous as encore donné envie de voir ce film. Est-ce que vous avez des petits trucs à rajouter sur les Césars?
Oui. C'est plus général sur...
Une imitation, peut-être?
Non, à la fin d'émission, après les recommandations. Je le promets. Non, un truc plus général sur le fait de récompenser... quelque chose, enfin l'art en fait de manière générale, bon, on dit ça, on vient de parler 25 minutes des Césars, mais moi je suis de plus en plus gêné à l'idée de récompenser chaque année comme ça des films, et ça vaut aussi pour les festivals, je pense notamment au Festival de Cannes. Pour moi c'est complètement con en fait, mais je comprends la volonté de récompenser, ça crée de l'événement, ça attire des gens à venir voir des films qu'ils seraient pas allés voir sinon. Mais je trouve que ça aurait beaucoup plus de charme et d'intérêt de ne rien récompenser, et que je parle pour le Festival de Cannes, et que juste les retours critiques, les retours des premiers spectateurs, l'ambiance qu'il y a là-bas, créent plutôt la valeur du film, les discussions qu'on en fait après, créer cette valeur plutôt que comme ça d'attribuer des récompenses à tel ou tel film, ce qui va en fait délégitimer les autres films. Et je sais pas, j'ai de plus en plus de gêne en tout cas avec cette manière comme ça de récompenser.
Je suis assez d'accord avec toi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez obsolète dans la cérémonie des Césars qui a été vraiment ressenti pour moi cette année, parce que en soi on l'a dit, c'était très plat, pas de scandale, pas de choses comme ça, et en fait je me suis rendu compte en regardant aussi la cérémonie avec des gens qui sont pas forcément cinéphiles, etc., qui étaient là, ouais, bah c'est relou, ils sont en train de remercier toute l'équipe, etc. Et en fait, j'étais là, mais c'est tellement important aussi. Enfin, il y a quelque chose où, par exemple, le discours de Vincent Lacoste, qui était claqué au sol, mais en même temps où tout le monde rigolait, mais qui était en fait très touchant. Enfin, dans le sens où il avait pas préparé, il y avait un truc où il remerciait plein de gens. Et en fait, je me dis, c'est dommage parce que quand on a un film comme Les Illusions Perdues, où enfin, pendant cette récompense, en fait, on met un peu les projecteurs sur ce film, alors qu'il y a plein d'autres films qui auraient pu être vraiment représentés. Et en fait, je trouve que, et notamment, moi, ce qui m'a le plus choqué, on peut en parler aussi, mais c'était la présentation des catégories, oui. Notamment le montage, la post-production, enfin la photo.
C'est toujours beaucoup trop long.
Non, mais c'est surtout les monteurs sont les yeux du cinéma. Enfin, c'était quoi cette histoire? Enfin, il y avait des fois, il y avait des définitions, ouais. Genre qu'est-ce qu'un monteur?
Qu'est-ce qu'un documentaire aussi, selon Antoine de Caunes?
Ah oh, oui, qui disait, je crois, la fiction c'est le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, et le documentaire c'est le monde tel qu'il est. C'est à la fois faux pour la fiction et pour le documentaire, donc comme ça. Et en effet, j'étais d'accord avec toi, j'ai plus le nom de cet acteur, je crois qu'il joue Largo Winch, qui a fait la présentation du montage. Non,
c'était pas Largo Winch.
Non, c'était pas Thomas Sisley.
Non, pardon, c'était pas Thomas Sisley. Mais qui était absolument désastreux. Enfin, c'est des genres de banalités qui, en plus, n'ont aucun sens.
Et en fait, c'était un peu... Et j'ai trouvé que, du coup, c'était un peu dommage parce que, pour autant... Cette cérémonie, et il faut qu'on parle quand même des deux grandes apparitions de cette cérémonie qui étaient Franck, Gaston Vide
oui.
Et Shenzo. Mais c'était deux trucs qui étaient tellement touchants. Genre,
ça a été eux les meilleurs finalement.
Et en fait, mais c'est surtout, au-delà du fait que c'était les meilleurs, c'était que c'était très intelligent. Genre, il n'y avait rien de bof en fait. Il n'y avait pas de représentation de vous n'avez pas le droit d'être là. La présentation de Sofiane était impressionnante et. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas mal et c'était bien joué, c'est-à-dire que c'était sobre, c'était efficace. Et en fait, il y a quelque chose où j'aimerais aussi que ces cérémonies-là, elles célèbrent une forme de passion cinéphile qui était vraiment incarnée, en fait, j'ai trouvé dans les deux discours. Parce qu'il y avait un truc de... Même si Franck Gaston Bide, c'était un peu décalé, un peu rigolo, il y avait rien de... Il y avait un truc très touchant sur aussi le côté décalé, enfin, j'ai trouvé que cette cérémonie elle était aussi en décalage, bon il faut aussi en parler mais bon maintenant peut-être dans un mois on sera dans des bunkers mais il y avait aussi la question de la guerre en Ukraine qui était un peu sous-jacente et tout et il y avait quelque chose de un peu décalé de on se sent pas de faire des discours militants sur le cinéma etc parce que il y avait quelque chose qui marchait pas trop, j'ai trouvé.
Il y en a eu un peu sur La Clé.
Sur La Clé, sur Harari, enfin.
Et sur, ouais, Harari aussi.
Mais il y avait il y a une question aussi de ça serait bien d'avoir des cérémonies qui célèbrent juste la cinéphilie et qu'est-ce qui fait plaisir de pouvoir... Enfin, pourquoi c'est intéressant de pouvoir produire, en fait, et de pouvoir créer. Et en fait, je pense que tous les discours, ils étaient plus sur ça, sur le fait de la joie, vraiment, de pouvoir créer. Et ça serait chouette de mettre en valeur aussi des films français, plus que de les séparer, de les éloigner. C'est vrai que les gens qui... Enfin, les films qui n'ont pas vraiment gagné sont un peu ignorés.
Eh bien, écoute, nous, on va continuer de célébrer l'amour du cinéma, qui cette fois-ci ne sera pas français, mais indien, et on va tout de suite se replonger dans ce film qui est Devdas.
Tes parents auraient le sens de l'honneur, et pas les miens, Dev. Tes parents sont propriétaires, et les miens, ils ne sont rien. Nous sommes peut-être d'un rang inférieur au vôtre, nous qui vendons nos filles, mais jamais nous ne trahissons qui que ce soit.
Je ne t'ai pas trahi, Paro.
Pourquoi t'es-tu enfui sans moi, dans ce cas? Et la lettre?
Paro. Tu connais ton Dev. Tu sais bien qu'il agit toujours sans réfléchir. Je me suis laissé aller.
Laissé aller? Quand cela t'amuse de le faire, Dev, tu viens m'offrir un bracelet. Tu m'écris ensuite qu'entre nous, il n'y a pas d'amour. Laissé aller? Et tu viens aujourd'hui me dire que tu veux vivre à... Le moment est venu pour moi d'y aller.
Je refuse ce mariage.
Quelle importance, puisque moi, je l'accepte.
Et si c'est comme ça, je m'en vais dire à tout le monde que je...
Quoi? Que je suis venue te voir toute seule à 2h du matin, c'est ça? Tu veux salir mon nom?
Moi, faire une chose pareille? Moi? Comment peux-tu penser ça? Et si tu répètes ce que tu viens de dire,
Tu feras quoi? Tu me battras? Tu penses avoir des droits sur moi depuis l'enfance? Seulement quand je réclame les miens, tu te défiles.
Ça suffit. Ça suffit, Paro.
C'est donc un extrait de Devdas, film qui a fait seulement 100 000 spectateurs lorsqu'il est sorti en 2002 en France, mais qui a été un peu le tremplin pour la visibilité du cinéma bollywoodien en Occident. Et donc, question rituelle, Adeline, pourquoi avoir choisi ce film?
Alors, je pense que j'ai fait un petit coup de poker puisque je n'avais pas vu le film avant de le présenter. Et en fait, la vraie question qui m'est venue à l'esprit, c'est que, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un film tremplin. Et en fait, Devdas, c'est le premier film de Bollywood qui est représenté dans des cérémonies. Donc, pour continuer sur les Césars, en fait, c'est le premier film qui est présenté aux Oscars en 2004. Et c'est le premier film de Bollywood, en fait, qui va être nommé dans des catégories. Et en fait, c'est
à Cannes aussi.
À Cannes,
c'est le premier film bollywoodien.
Non, en fait, à Cannes, c'est le premier film bollywoodien présenté hors compétition.
Ah, d'accord.
Donc c'est un peu une arnaque de sur la fiche Wikipédia.
D'accord.
Mais c'est, en fait, c'est un premier film, en tout cas, enfin, qui a un aura. En fait, bien sûr, il y a eu des films indiens qui ont été primés, mais pas dans la catégorie. On en pourra reparler plus tard, mais vraiment de clichés de Bollywood. Et en fait, je me demandais qu'est-ce qui démarque ce film des autres films et pourquoi c'est lui qui a fait démarrer quelque chose. Et en fait, je pense que après l'avoir vu, c'est un film qui est très complet sur tout ce que représente le cinéma bollywoodien.
Tout ce que ça a de bon, est-ce que ça peut être d'un peu agaçant. Toi, Lucas, qu'as-tu pensé de ce film?
Ah, direct. Non, bah, ouais. Bon, déjà, je vais annoncer, je n'ai aucune légitimité à parler du cinéma indien bollywoodien. C'était mon premier film indien. Et donc de ce fait bollywoodien, mais je pense que c'est le cas de la majeure partie des personnes qui nous écoutent aussi, parce que finalement je pense pas que ce soit un effet de snobisme de que le public français ne regarde pas le cinéma indien. C'est juste, bon, voilà, c'est pas du tout pour le coup la même culture, la même façon de faire, c'est d'autres codes culturels, donc ça fait qu'on s'y intéresse peu. Donc pour ça, je pense que même si je n'y connais rien, je pense que ma parole pourra quand même parler à d'autres personnes qui se reconnaîtront dans mes connaissances. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, on rentre tout de suite dedans, ou peut-être que tu fais un tour
de table? Oui, c'était, en fait, je me suis trompé dans la question, c'est quelle connaissance du cinéma bollywoodien on a, mais
on
du coup, tu
aucune.
As parfaitement répondu. Toi, Louis, est-ce que tu as une connaissance du cinéma bollywoodien?
Non, non, non. Comme Lucas, c'était mon premier film indien, et donc bollywoodien. Mais j'ai eu de la chance de le voir dans des conditions particulières. C'était au Festival Lumière de Lyon, l'an dernier, en projection 70 mm. Donc c'était très cool, avec un petit entracte, parce que c'était un film long, hein, faut le dire, de 3 heures. Petit entracte, le temps de changer, donc la bobine. Présenté par Abdel Malik, qui a tenu un discours en tout cas, il avait beaucoup aimé le film, lui qui a écrit des chansons autour de la, enfin des textes autour de l'amour et de notamment Roméo plus Juliette, une de ses chansons. Là, il s'y retrouvait beaucoup dans ce film, donc c'était une chouette présentation de sa part. Et du coup, bah, je l'ai beaucoup apprécié, à la fois du fait du coup des conditions de visionnage et du film en lui-même dont on va pouvoir parler. Et toi, Nico, est-ce que tu connaissais d'autres films indiens ou bollywoodiens?
J'avais vu deux ou trois films indiens, mais pas du tout bollywoodiens. Enfin, pas dans le genre comédie musicale, en tout cas. C'était notamment des films qui s'appelaient Gang of Wasseypur, qui c'est un diptyque qui parle de la partition des deux Indes en fin des années 50, et c'est une histoire familiale. J'ai plus le nom du réalisateur, je crois que j'ai oublié de le noter, mais c'est une histoire familiale, une histoire de vengeance qui parle en même temps de l'histoire des familles mais aussi des pays, etc. Mais qui n'était pas du tout un film bollywoodien, qui était un film violent et qui n'a aucun numéro musical, quoi. C'était un film assez sombre. Et donc là, pour le coup, c'était mon premier film vraiment bollywoodien, dans le sens qu'on peut en avoir un peu cliché. Et surtout, le premier film bollywoodien des années... tel qu'on peut le voir dans les années 2000. Car j'ai pu parler avec quelqu'un qui s'y connaît très bien en cinéma bollywoodien, et que je salue Rico, s'il nous écoute. Et il m'a expliqué que oui, le cinéma indien, c'est tout d'abord une histoire de famille, avec vraiment... C'est toujours les mêmes personnes qui font ce genre de film, et qui se passent d'une génération à l'autre le savoir. Et que Bollywood, avant la fin des années 90, et avant l'émergence de films comme Devdas, ou plus tard La Famille Indienne, que je sais que tu aimes bien, Adeline, c'était, on pourrait dire, du pagnol indien. C'est une personne de Marseille qui m'a expliqué ça. C'était vraiment des films tournés dans les villages, et qui mettaient en avant beaucoup de traditions, etc. Des films en noir et blanc, à petit budget, qui étaient pas forcément flamboyants. Et c'est un film, donc, Devdas, une industrie qui a été mise en avant après à Hollywood et dans le monde entier avec Devdas. Mais qui connaît, ça a été assez bref en fait au final, parce que depuis 2010, ça connaît une baisse de régime, et en Inde, beaucoup de gens vont voir les mêmes films que nous, enfin que la plupart des gens, c'est-à-dire des blockbusters, des Marvel, des Disney, etc. Et enfin, une phrase que ce spécialiste m'a dit et que je trouve intéressante à savoir, c'est que le cinéma, c'est une culture commune, et notamment le cinéma indien, au sein d'un pays qui est immense et qui est multiculturel et où beaucoup de gens parlent des langues différentes. Donc peut-être une culture qui n'a pas la même vision que nous du cinéma, et donc peut-être qu'on va être assez dur avec ce film. Je sais pas exactement ce que tout le monde en a pensé. Mais c'est aussi un film qu'il faut regarder avec peut-être un œil différent et en sortant nos a priori.
Mais ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'il y a un message un peu de rassemblement dans ce film qui est Devdas. Et comme tu le dis, du coup, c'est une société qui est très... comment on peut dire ça,
Après, il faut prendre vraiment cette idée de réunification de l'Inde par les films de Bollywood avec des grosses pincettes parce qu'en soi, c'est plus qu'il y a un rapport différent aux acteurs, à l'industrie. Mais encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment plus qualifié dans les villes. Notamment, en fait, il y a une grande question de la langue. Donc, je ne sais pas dans quel... si vous l'avez regardé en VO ou pas, le film.
Ouais, en hindi.
Mais du coup, en fait, voilà, c'est pas vraiment... En fait, le film est en partie en anglais, en partie en hindi. Et en fait, il y a toute une question aussi de comment, en fait, on parle, de comment on réagit. Et en fait, c'est un film... Effectivement, le cinéma Bollywood, c'est un cinéma qui rassemble. Mais il faut quand même le prendre avec des pincettes. C'est aussi une industrie qui est très dangereuse en soi. Et qui... parce qu'en fait, elle mystifie des rêves. Elle mystifie aussi une conscience de classe... qui est très présente, et on pourra en parler pendant Devdas, parce qu'en fait, c'est tout le sujet.
Bah, tu peux peut-être pitcher un peu le film, justement.
Alors, le film, c'est une adaptation d'un roman qui s'appelle lui-même Devdas, qui est en fait le roman qui équivaut au Roméo et Juliette indie. Donc, c'est vraiment un roman indie à l'origine, et sur une culture indie. En fait, ça parle du coup de... dans une date qui est assez approximative, on pourrait penser que c'est les années 50, mais pas vraiment, enfin aux 60-50.
Le livre est sorti en 1917, et c'est vrai que dans le film, on sait jamais à quelle date ça se passe.
Il y a des carrosses, enfin c'est assez flou, on sait pas vraiment dans quelle ville non plus c'est.
C'est un conte en soi, donc...
Exactement. Et en fait, c'est l'histoire de deux voisins, Devdas et Paro, qui sont dans deux voisines-voisines, dans deux, du coup, maisons voisines, mais qui appartiennent à deux castes différentes, donc d'un côté des commerçants, donc les parents de Paro, qui sont je pense, une caste commerçante, mais plus dans aussi des danseurs, etc. Ça va être vraiment mis en exergue dans le film. Et de l'autre côté, des gens qui sont vraiment bourgeois et d'une caste qui n'est pas aristocrate, donc c'est la plus grande des castes, mais qui est juste en dessous et qui est du coup une caste plus élevée que celle de Paro.
Et c'est un film surtout qui vit à travers ses musiques, et je propose qu'on écoute une de ses musiques, qui s'appelle Mar Dala. Je sais plus à quel moment exactement c'est du film, mais on va l'écouter tout de suite. Toujours Radio Campus Paris et la séance du dimanche. On a parlé précédemment des Césars 2022 et actuellement nous parlons du film Devdas. Donc Devdas, c'est un film, comme Adeline l'expliquait, c'est un film bollywoodien qui parle des rapports notamment entre castes, et c'est un film qui contient beaucoup de musiques qui font vraiment avancer l'histoire. Tous les numéros musicaux font avancer l'histoire. Et chaque parole, enfin je ne parle évidemment pas hindi, mais les paroles ont un double sens, ils parlent à la fois de l'amour humain et de l'amour divin hindouiste. On pense notamment à la danse de la déesse vs la danse de l'ivrogne dans des numéros musicaux. Et donc Louis, je me tourne vers toi cette fois-ci, qu'as-tu pensé vraiment du film en soi ?
Bah ouais, tu parles des musiques, tu parles des danses. Moi, c'est quelque chose qui me plaît toujours beaucoup, les contes musicaux, les comédies musicales. Vous connaissez mon appétence pour ce genre-là, et donc forcément exacerbé à ce niveau-là, moi j'ai pu qu'apprécier. Ça aurait pu me rebuter parce que c'est vraiment au degré ultime du conte musical. Et au final, non, j'ai beaucoup apprécié. Et au-delà d'un choc un peu sonore, on va dire, pour moi, ça a été un vrai choc visuel. C'est quelque chose qu'on n'est pas du tout habitué à voir, mais je pense que c'est typique, donc tu disais, du cinéma bollywoodien de ces années-là, en tout cas. Beaucoup de couleurs, des décors luxuriants, absolument magnifiques aussi, des grands palais... Et puis donc toutes ces danses chorégraphiées, filmées en plan séquence qui sont absolument magnifiques. Donc pour moi ça a été un vrai choc visuel. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça qui est exacerbé, il y a les sentiments aussi. Enfin, tout est exacerbé. Et
le jeu des acteurs.
Le jeu des acteurs aussi. Et je pense qu'on est là dans un certain retour au cinéma, finalement, même nous, tel qu'on le connaît, mais dans le cinéma muet, où justement le jeu des acteurs devait être exacerbé, les sentiments aussi, il y a quelque chose pour moi de très fort là-dedans, dans cette façon de jouer, dans cette façon de, encore une fois, de tout exacerber, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, et en tout cas, ça correspondait vraiment à l'idée que je me faisais, moi, d'une comédie musicale bollywoodienne, où tout est tourné, joué un peu au premier degré, et finalement c'est un trop qui m'a pas rebuté, et au contraire, qui m'a plongé dans le film, qui m'a emmené, qui m'a entraîné.
Et moi, ce côté-là, moi, je l'ai beaucoup apprécié au début du film, où on retarde l'arrivée de Devdas, qui est évidemment la star, même si Shah Rukh Khan n'est pas encore la star qu'il a été ensuite. Tout le début du film, c'est des plans séquences où on part d'un personnage à l'autre, on attend qu'il arrive, on sait pas s'il arrive, etc.
Ça, je trouvais ça incroyable.
Et tout le début, j'ai assez aimé en fait ce rapport entre Devdas et Paro, qui est très cliché, mais vraiment c'est l'amour fou, quoi, avec une flamme qui brûle depuis 10 ans, littéralement. Ce genre un peu de réalisme magique, même si je sais pas si on peut en parler ici. Cette ampleur des décors aussi, comme tu le disais, avec ces palais. Même au début, j'avais pas compris que la caste de Paro, c'était des gens pauvres, car ils habitent littéralement dans un palace.
Un palais de verre, en plus, qui est magnifique.
Qui est magnifique, avec un peu de poussière, mais c'est tout. Donc, c'est quelque chose que j'avais pas compris au début. Et donc, oui, c'est un film où tout le long, hein, il y a une ampleur des décors, des sentiments, du drame. Mais je trouve qu'il y a vraiment, dans mes souvenirs, en plus, le film est vraiment coupé en deux. Je sais plus s'il y a une entracte. Je sais plus s'il y a vraiment une entracte.
En tout cas, moi, j'ai eu l'entracte, donc.
Oui, il y a une entracte au milieu. Et je trouve que la deuxième partie est beaucoup moins intéressante, et je m'en souviens assez peu, avec l'histoire d'Evdas qui est alcoolique, chez une prostituée, et c'est long, et c'est long, et vraiment là, j'ai un peu commencé à décrocher à partir de là du film.
Bah, moi je suis d'accord, mais j'ai même décroché avant l'entracte. En fait, je trouve les premières minutes, peut-être même la première demi-heure, vraiment assez brillante. Je me plaisais vraiment, et comme tu l'as dit... Il y a vraiment une virtuosité à faire découvrir ce palais, je trouve, rien que dans les mouvements de caméra. Je me souviens, je crois, de cette première scène où les gens courent sur l'espèce de balcon intérieur. Ouais. C'est vraiment hyper brillant. Sauf que, en fait, c'est tellement luxuriant, c'est tellement beau, les gens sont beaux, les bâtiments sont beaux, qu'en fait, au bout de quelques minutes, tu finis par être noyé par tout ça. C'est trop de beauté, tu la beauté, je trouve. C'est pas assez mis en relief avec, je sais pas, d'autres choses, peut-être un peu moins brillantes. Ça, c'est sur le côté visuel, et je reporte cette même logique au côté musical, en fait. Comme Louis, j'aime beaucoup tout ce qui se rapporte au cinéma et à la musique, aux films musicaux et aux comédies musicales. Mais là, en fait, le problème, on l'a entendu là avec la musique, c'est, moi j'aime beaucoup ces sonorités, j'y connais rien, mais ces sonorités, on va dire, traditionnelles indiennes, c'est toujours très prenant. Sauf que c'est prenant quand on les prend à part, mais quand on les prend enchaînées dans le film, en fait, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent un peu toutes et qu'elles expriment pas forcément les sentiments des personnages, pas dans les paroles d'accord, mais je trouve dans la musicalité c'est toujours quelque chose d'assez entraînant, mais je trouve que justement qu'il peut manquer de mélancolie, de tristesse, ou au contraire de, je sais pas, d'envie sexuelle, enfin tu vois, d'avoir du dénivelé entre les musiques, ce qui fait que j'ai l'impression qu'elles sont toutes quasiment interchangeables entre elles. Les musiques, en dehors de la danse, mais je parle vraiment en termes musicaux et en dehors des paroles.
Non, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Autant les paroles et la danse font avancer le récit, et à chaque fois, bah, comme l'a dit Nicolas, peuvent même avoir un double sens. temps la musique. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas habitué à ce type de musique qu'on en,
qu'on en sent pas les
nuances?
Possible.
Je sais pas, mais en tout cas, oui, je suis tout à fait d'accord.
Mais, tu vois, comme dans un film comme dans Les Parapluies de Cherbourg,
par exemple,
là, ou West Side Story, chaque musique a son impact, a son cachet, on va dire.
Oui.
Et je suis d'accord sur un autre film comme dans La Famille Indienne. On pourrait penser que les musiques sont mieux. Enfin, je trouve que les musiques sont mieux dans La Famille Indienne et que là, finalement, c'est un peu plan-plan, elles se ressemblent un peu.
Peut-être que tu veux parler vite fait de La Famille Indienne.
La Famille Indienne, c'est un film aussi avec Shah Rukh Khan, mais pas avec la même actrice, puisque c'est Kajol qui joue dans La Famille Indienne. Et c'est un film qui aussi est très représentatif de plein de questions, etc., mais qui, à mon sens, a les qualités des défauts de Devdas. C'est-à-dire que c'est un film qui est plus complet. Parce qu'en fait, le vrai problème de Devdas, c'est que je trouve qu'il y a un moment où ça devient un peu long sur le scénario, en fait, sur vraiment le côté où ça s'essouffle. En fait, on s'en fout un peu qu'elle l'aime ou pas, parce que, en fait, lui, il est pas intéressant. Enfin, il y a un truc où, de plus en plus, Devdas, je trouve qu'on comprend pas que le film s'appelle Devdas au bout d'un moment. Parce que, en fait, je suis là, mais.
Il est dans son coin.
Il y a pas d'empathie pour le personnage, enfin j'ai manqué de ça, alors que dans La Famille Indienne,
il est assez antipathique, hein, notamment après au moment où il a tous ses déboires, etc. Et du coup ça m'amène à un point, du coup je dévie un petit peu sur des scènes qui sont assez problématiques, notamment où il la frappe, où il lui parle mal, des trucs, moi qui m'ont, c'est peut-être des scènes qui auraient pu me faire sortir du film.
En fait, c'est vrai que
et c'est là son côté antipathique
sur...
aussi.
Enfin, moi je trouve qu'il y a toute une question sur sur la possession qui est un peu étrange aussi. C'est-à-dire qu'on pense pas vraiment à de l'amour et en fait c'est vraiment plus présent dans Devdas, je trouve, parce qu'en fait il y a une question qui est vraiment des fois où on comprend pas forcément les notions d'honneur, les notions, en fait tout ce truc avec la prostituée, je trouve ça d'un côté intéressant et d'un côté complètement raté. Parce que c'est un personnage qui est trop intéressant. Le personnage de la prostituée, il est trop bien. Et en fait, il est écroulé par le personnage de Devdas, qui est là, qui est présent et qui fait des jugements de valeur qu'on comprend pas. Parce que, en fait, enfin, je trouve qu'au bout d'un moment, ça s'essouffle un peu. Parce que c'est répétitif. C'est un peu trop répétitif et ça manque de rythme. Après, je pense encore une fois que c'est peut-être un point de vue aussi occidental, parce que dans La Famille Indienne, il y a une grande présence en Angleterre.
Oui, dans La Famille Indienne, c'est... alors, vous, Louis et Lucas, vous ne l'avez pas vu, mais La Famille Indienne dure 3h30, là où Devdas ne dure que 3h. Et c'est vraiment parce qu'il y a le même début avec Shah Rukh Khan qui est en retard pour arriver chez lui. Il y a les chevaux au vent.
Il revient d'Angleterre.
C'est ça, il revient d'Angleterre. C'est une maison trop grande. Il y a des numéros musicaux qui sont vraiment interminables. Il y a même un clip en Égypte. Je sais pas si tu te rappelles, mais
il y a un clip
avec des pyramides,
incroyable.
Mais c'est d'un kitsch génial. Et en fait, c'est la même thématique que Devdas. Et moi, je trouve que c'est kitsch, c'est un peu moins fou esthétiquement que Devdas, tu vois. Il y a plus ces flashs de couleurs, ces bruits de fouet, etc.
Mais alors, c'est déjà un peu plus tard, ça sort après Devdas, et c'est surtout bien plus kitsch. Il y a quelque chose de... Il y a un kitsch assumé à la mode occidentale, je trouve.
Il y a des clips des Spice Girls, pratiquement.
Exactement. En fait, toute la partie à Londres, c'est des Spice Girls. Enfin, c'est vraiment... On pourrait croire que Victoria Beckham va arriver en faire un... Et en fait, il y a quelque chose de plus compréhensible qui sera repris aussi dans un autre film qui est une adaptation d'Orgueil et Préjugés qui s'appelle Coup de foudre à Bollywood. Et en fait, ça sera quelque chose où, du coup, une année très... Enfin, une période très 2000... où en fait il y aura une tendance entre l'occidentalisation forcée presque, qui est liée à un passé... Enfin, je trouve que Devdas, c'est très tradit. Il y a quelque chose d'extrêmement tradit. Après, c'est une adaptation, mais au bout d'un moment, ça en est un peu trop. Alors que dans d'autres films, on aura une séduction, en fait, je trouve, d'un public plus occidental en soi. Et même s'il dure 3h30, je trouve qu'il est beaucoup moins long, parce que en termes de rythme, et de musique, etc., il y a quelque chose de très rythmé, de très drôle, de très présent, et en fait, vraiment, je vous le conseille, parce que je trouve que c'est un film excellent.
Et je pense que c'est difficile, du coup, de continuer à parler de Devdas sans parler de son acteur, évidemment, le King Shah Rukh Khan, et je propose qu'on s'écoute une petite interview de lui, il y a quelques années, alors qu'il était de passage au Festival de Marrakech.
Pour terminer, vous êtes le King Khan. C'est quoi être un roi? You're a King Khan. What is to be king? What sort of king are you? King. What sort of king are you?
I'm the king of love.
Je suis le roi de l'amour et de l'espoir. Et vous savez pourquoi ça me fait plaisir d'être surnommé le king? Pourquoi c'est génial? Parce que je me sens comme un roi au Maroc, surtout dans la chambre que les gens du festival m'ont prêtée. Je me sens comme un roi, même s'ils ne m'ont pas donné de couronne. Mais j'ai la sensation d'être quand même un roi, le roi que chacun aimerait bien devenir. Je suis un rêve vivant. J'ai eu beaucoup de chance, c'est vrai. Mais si j'ai eu beaucoup de chance, c'est grâce à l'amour des gens. Donc je veux être le roi de la gratitude. Je veux être le roi qui dit merci. Je veux être le roi qui ne travaille que pour les gens qui veulent rêver. Je suis donc le roi des rêves.
Le roi des rêves, évidemment, le roi de l'humilité. Donc peut-être... Donc Shah Rukh Khan, c'est un personnage qui est vraiment très intéressant, qui a une aura incroyable. Je vous conseille... sur Netflix, il y a une série de documentaire, un peu des talk shows de une heure avec David Letterman qui à un moment invite Shah Rukh Khan pour son épisode et on le voit parler de sa famille, etc. On le voit en Inde, on voit vraiment des nuées de gens qui courent vers lui pour le voir parce que tellement c'est une star, c'est presque un dieu vivant quoi, Shah Rukh Khan. Et évidemment, c'est un personnage qui est fascinant, qui, on l'a entendu dans l'interview, qui se considère lui-même comme un roi des acteurs, quoi, tout simplement. J'avais lu un article qui expliquait que ce n'était pas une icône féministe, mais une icône féminine qui est très aimée par les Indiennes. Et c'est aussi un acteur qui assume de faire de la pub pour tout et n'importe quoi, qui a pris le risque aussi d'en faire quand ce n'était pas bien vu. Et au départ, il faut se dire que Shah Rukh Khan, dans les années 90 en tout cas, c'est un acteur qui correspond pas aux standards de beauté hollywoodiens et qui rêve de faire de la télévision, ce qui est moins glorieux que le cinéma, mais qui pourtant a réussi à s'imposer dans le cinéma bollywoodien. Et même si actuellement il a un peu plus de 50 ans, il est en perte de vitesse, il a eu pendant 20 ans un succès vraiment sans partage sur ce cinéma. Et vous, que pensez-vous vraiment, pour parler de l'acteur, du jeu de Shah Rukh Khan? C'est peut-être un peu difficile à répondre.
Déjà, je pense que c'est pas Cusco, le roi mégalo. Enfin, vraiment, le fait de parler de roi, c'est une vérité. Enfin, c'est un très bon acteur, je trouve. Alors, pas dans Devdas. Dans Devdas, il y a des moments où, effectivement, c'est peut-être un peu un surjeu. Mais en même temps, c'est peut-être... c'est peut-être fait exprès, mais en fait, il y a un truc de... C'est un très bon acteur et c'est surtout quelqu'un qui travaille avec les autres acteurs. Et ça, je trouve ça impressionnant. C'est-à-dire que dans tous les films que j'ai vus où il est dedans... En fait, il n'y a aucun moment où son regard n'est pas attaché à quelque chose et n'est pas attaché à quelqu'un. Et en fait, il travaille vraiment en équipe. Et ça, je trouve ça impressionnant. Et je vous invite encore une fois à regarder La Famille Indienne. Mais il y a un rapport avec les acteurs dans ce film qui est intense. Et en fait, il joue avec Kajol, avec qui il aura le plus joué. C'est une actrice avec qui il a fait le plus grand des duos. Enfin, le plus nombreuse de fois des duos. Et en fait, je trouve que c'est un acteur... Qui est un roi et icône féminine, parce qu'en fait, on a envie de l'aimer, je trouve.
Moi, je trouve pas du tout qu'il soit en surjeu dans Devdas, justement. Parce que tout le film est un surfilm de la surémotion. Ce serait un surjeu s'il jouait dans un film des Frères Dardenne, par exemple. Là, où, là ça dénoterait un peu. Mais je trouve pas que... Je dis pas... Enfin, pour le coup, aussi, il joue plutôt bien, je veux dire, dans l'ambiance générale du film. C'est ce que le film veut, une surémotion.
Sans vouloir gâcher la fin du film de Devdas, mais la mort peut être équivalente à une Marion Cotillard pour moi.
Oh non, tu es dur avec.
J'ai trouvé
non,
ça
tu es dur
avec Shah Rukh Khan. J'étais là, non, là c'est trop.
Et ne réduisons pas Marion Cotillard à
vraiment, un mauvais montage.
Excellente actrice.
Oui, c'est vrai. Et pour finir, il faudrait aussi dire que c'est un acteur qui est aussi célébré pour ce qu'il est. Parce qu'il représente l'Indien mondialisé, mais aussi respectueux des traditions, et ça se voit dans les rôles qu'il incarne. Et même dans toute son histoire, je trouve que souvent les acteurs, ils sont passionnants parce que, au final, ils jouent toujours eux-mêmes et il y a toute une aura autour d'eux. Et ils brisent un peu les frontières séculières de l'Inde. Il vient d'une famille pauvre et musulmane. Il a fait une école catholique et il est avec une femme hindoue. Et actuellement, il peine donc à trouver sa place à Bollywood. Et c'est la cible d'extrémistes hindous. Je ne sais pas si vous le savez, mais...
Alors, il s'est converti, en fait, pour se marier avec sa femme parce qu'il vivait dans l'illégalité pendant un moment. Et en fait, là, en ce moment, c'est plutôt tendu pour Shah Rukh Khan. Non pas du fait de sa religion, mais du fait de son fils. Du coup, en fait, il a plusieurs enfants, trois enfants. Et en fait, son fils, dernièrement, a été arrêté pour trafic de drogue. Et en fait, il y a eu un vrai souci. C'est People India. Mais en fait, Le problème de Shah Rukh Khan, c'est qu'en fait, il est tellement élevé au rang de roi, mais aussi de divinité, qu'en fait, ce genre de d'échec, on va dire, et d'échec en fait dans une vie qui est si parfaite, et il en parle très bien dans l'interview, en fait, c'est une vie de chance. Et en fait, Shah Rukh Khan, il a fait croire aussi. Je vous invite à regarder, il y a un doc qui est très bizarre sur YouTube, mais que j'ai regardé, et qui est un peu un Herzog étrange. C'est un journaliste anglais qui va rencontrer des aspirants acteurs à Bollywood. Et en fait, tout le monde est obsédé par la carrière de Shah Rukh Khan, le truc impressionnant, en fait, même la rencontre de ses parents est digne d'un truc de Bollywood. Et en fait, le fait qu'il lui arrive ce truc de déchéance avec son fils, c'est une vraie question morale et politique, en fait. Parce qu'il ne peut plus être incarné comme icône, et en fait, notamment pour des mouvements hindous. Et parce qu'en fait, lui, c'est vraiment l'abnégation. En fait, c'est juste pour une histoire d'amour, il s'est converti. Il a vécu de sa passion qui était le théâtre, non pas pour l'argent, mais vraiment pour la passion du théâtre. Et en fait, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est du storytelling, en fait. Il y a vraiment... Et au-delà, et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un genre de storytelling qu'on pourrait faire pour des femmes. Notamment les histoires d'amour, le fait qu'elles venaient de rien, elles sont créées. Et en fait, il y a peu ça, je trouve, sur d'autres personnes que Shah Rukh Khan. Enfin, on peut parler de l'actrice de Devdas, que je vais pas réussir à bien dire, je veux bien me retenter à faire son prénom.
Je l'ai écrit sur le papier qui est juste à côté de toi pour briser un peu la magie de la radio, de l'autre côté.
Attention, Aishwarya Rai, qui du coup, en fait, elle aussi a un parcours assez particulier parce qu'elle est Miss Monde en 94, Miss India, etc. Il y a vraiment tout un truc autour de la construction de ces personnages. Mais vraiment, Shah Rukh Khan, au-dessus de tous, reste en fait une vraie... vraie icône, en fait, et c'est l'acteur, je crois, le mieux payé au monde.
Oui.
Et ça, je trouve ça dingue, en fait. Il y a vraiment un truc de ce mec est le roi du monde, et on le sait peut-être pas.
Mais moi, c'est un truc dont je me suis rendu compte de deux façons. Déjà, c'est quand on est allé, on a assisté, je pense que vous vous en souvenez, à une émission de Plan Large.
On salue Antoine Guivre.
On le salue. Et ce jour-là, donc, on était dans les studios, et une partie de l'émission a été consacrée à Bollywood et Shah Rukh Khan. Et c'est là que
pour
j'ai compris.
Dans ce film.
Oui, Fernando Gonzo était invité. Oui.
Et c'est là que j'ai compris, en effet, quelle star il était dans son pays. Et je l'ai compris aussi là du coup récemment en préparant l'émission, en regardant un petit peu quels étaient les films indiens, voilà, les plus connus, les plus appréciés, etc. Et on retrouve dans le casting des deux tiers ou presque des trois quarts d'entre eux, Shah Rukh Khan dans le rôle principal. Donc j'ai l'impression que c'est en effet l'acteur vedette qui fait marcher un film bollywoodien.
Mais aussi, il se dégage un peu... Enfin, je pense que ça serait intéressant de voir aussi son jeu par rapport à d'autres jeux plus traditionnels, etc. On s'y connaît malheureusement pas assez bien en Bollywood, il faut le rappeler, mais je pense que vraiment, il y a quelque chose de singulier dans son travail. Et en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti en regardant du coup Devdas, etc., c'est vraiment le rapport qu'il a aux autres. Et le rapport assez... Enfin, tu disais que le film est problématique sur plusieurs points, mais pour autant, il y a toujours un rapport sain, je trouve, dans son jeu. Aux autres acteurs, il y a quelque chose qui est assez touchant. Et je comprends qu'on puisse l'idolâtrer, en soi.
Bah écoute, merci pour toutes ces... Cette analyse de Shah Rukh Khan, on espère que ça vous aura donné envie de voir Devdas et d'autres films de ce grand acteur. La famille indienne qui est disponible sur Netflix d'ailleurs. Et tout de suite, on va rester un peu dans une ambiance indienne pour un jeu que nous a préparé ce cher Victor.
Nous allons jouer à un jeu.
Ah, not a chance.
Bon, arrêtez avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre.
Oh putain, c'est un Trivial Pursuit.
1, 2, 3.
Je vous propose un autre jeu plutôt. C'est un jeu auquel je gagne toujours.
Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu.
Je peux perdre, mais je gagne toujours.
Et donc Victor, que nous as-tu concocté aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on reste sur une idée de jeu tout pourri, avec plein de titres de films que vous connaissez normalement, qui ont été traduits du français vers l'hindi. Et certains autres, vu que ça restait trop obvious, certains autres ont été retraduits vers du chinois simplifié, de l'ouzbek, des langues dont je n'ai aucune idée qu'elles existaient. Puis tout ça retraduit en français pour avoir finalement quelque chose qui ressemble plus ou moins vaguement au titre d'origine. Je vous ai fait un petit classement avec des musiques plus ou moins... des musiques, n'importe quoi. Des titres de films plus ou moins faciles dans l'ordre. C'est un jeu de rapidité. Donc, il n'y a pas de chacun son tour.
Notre invité peut jouer si elle le souhaite.
Bien évidemment.
Je tiens à signaler que je n'ai peut-être pas compris les règles. Donc, peut-être que ne comprendrai pas.
Il faut trouver de quel film...
Le titre traduit plusieurs fois.
Très bien, très bien. Je ne me mise pas beaucoup. Voilà, j'annonce.
Et on peut dire d'ailleurs tout de suite bonjour à notre invité.
Bonjour.
Hop.
On commence tout de suite avec le premier titre. On va pas faire de buzzer. Vous criez le plus rapidement possible.
Monsieur Par.
Le titre original que vous avez trouvé. Le premier, c'est 12 gorilles armés.
L'armée des singes.
C'est Adeline qui remporte le point. Bravo. Donc, voyez, c'est pas si horrible que ça. Il y en a qui sont moins évidents que d'autres. Le suivant, c'est Ville de la peur.
C'était la peur.
Ouais. Je pense que c'est toi, Lucas.
Ah, c'est Lucas. Peur sur la ville.
Ouais. T'as dit peur sur la ville ?
Ouais.
Non, c'est la cité de la peur.
Ah, bah c'est moi du coup.
Ouais, donc c'est. Eh bah, très bien vu. Alors celui-là, il est relativement facile. C'est le dernier train pour rejoindre la Buse.
Le dernier train pour Roussane.
Ouais, bravo. C'est pas parce qu'il parle plus fort qu'il gagne plus vite, hein.
Eh bah, si, dans mon cœur, c'est le cas. Celui-là, il est aussi assez obvious. Le tram appelé Souhait.
Un tramway nommé Désir.
Oui, c'est Adeline qui. Hey, 2-2.
Papa, para.
Dis donc.
Mais avec lui, on est trop délicat pour crier, c'est pour ça.
Oui. Et pourtant, tu gagnes 2 points. Celui-ci, il est un peu plus technique. À la recherche du poulpe pourpre.
La recherche, ouais. Black Pearl.
Non. Il y a, alors, si vous voulez savoir, il n'y a aucun rapport avec les poulpes. C'est vraiment la traduction qui a complètement pourri. Pensez à une recherche.
La recherche de l'arche perdue.
Non. Non. Recherche et du pourpre. Recherche de près ou de loin, une recherche, une poursuite, je ne sais pas.
Ah,
alors c'est Octobre Rouge.
Ah oh, oui,
oh. Parce que visiblement octobre s'est traduit en poulpe.
Okay. Incroyable.
Ce qui est une.
Ah, il doit y avoir un octopus, un truc. Ouais, je sais pas dans quelle langue t'as traduit ça, mais
ouais, dans trop de langues différentes. Ok, un point pour Lucas. Tout est encore possible. Il nous reste 3 titres. Celui-ci, il est un peu capillotracté. Mur, rue, loup.
Le Loup de Wall Street ?
Oui, tout à fait.
Wow. Ah oui, très littéral.
Scorsese.
Très très littéral, effectivement. 3 points pour Nicolas, attention, l'étau se resserre. Celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est l'attaque-retour de la dynastie.
L'Empire contre-attaque,
tout à fait. Oh. Très bien vu.
Un point pour notre invité.
T'es dans ma team. Ouais.
J'ai pas voulu traduire Star Wars parce que ça aurait été trop évident. Mais ouais, l'attaque retour de la dynastie, je trouve ça encore plus stylé que l'Empire contre-attaque. Ça aurait été le titre original. Et finalement, le point en or peut être une égalité avec Adeline. Celui-là n'a aucun sens. C'est parti avec la princesse.
Et autant n'importe le vent ?
Non, pas du tout. Ah. Parce qu'il n'y a aucun rapport avec parti. Mais je vous donne un indice, c'est un Disney.
Réponse.
Princesse à la grenouille, tout à fait.
Mais alors, c'est incroyable.
C'est
pourquoi partie ? Peut-être que partie rime avec grenouille dans une autre langue. Sur ce, je crois que c'est Nicolas qui gagne avec 3 points. 2 points Adeline, 2 points invité, 1 pour Lucas, Louis 0.
Ouais, j'aime pas crier.
J'entends.
Ta voix est beaucoup trop douce pour ça. Eh ben merci Victor.
Eh ben je t'en prie.
Merci beaucoup.
Toujours là pour des jeux aussi qualitatifs.
On va passer tout de suite aux recommandations qui seront... je l'espère, nombreuses, mais avant ça, on va s'écouter une musique qu'on m'a demandé Louis d'insérer dans cette émission. Et donc vous vous avez écouté un morceau d'Elton John. Peux-tu nous dire le titre, Louis, de ce morceau?
C'est Amourina, et parce que ma recommandation ce mois-ci, c'est un film qui s'ouvre sur cette musique d'Elton John et sur des plans dans les rues de Brooklyn. Puis apparaissent des personnages joués par Al Pacino et John Cazale,
oh,
qui entament un braquage d'une banque.
Je vois ce dont il s'agit.
Mais ce hold-up qui devait prendre à peine 30 minutes foire complètement et devient une longue prise d'otage à l'intérieur de la banque. Donc ils deviennent piégés dedans. Elle se transforme rapidement en une attraction de rue. Elle fait la une des journaux télévisés. Et ce film, en effet, je pense que tu l'as reconnu, c'est Un après-midi de chien de Sidney Lumet, que j'ai revu récemment avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Déjà, vous connaissez mon appétence pour les huis clos. C'est un huis clos dans lequel la montée en tension au fil de ces deux heures de film, eh bien, va crescendo. On le voit rien que à la transpiration des personnages, hein, mais aussi à tout un tas d'autres indices et même au niveau du rythme du film. Moi, j'ai trouvé ça très 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 prenant. Le scénario est très bon, forcément, ce scénario de braqueurs un peu novices qui se retrouvent piégés dans la banque, qui devient vraiment une attraction de rue et qui donne du coup même des scènes très drôles quand Al Pacino sort dans la rue et que finalement il arrive à amener avec lui tous les manifestants contre la police. Enfin, c'est des scènes qui sont à la fois très drôles et à la fois très très tendues. J'ai trouvé que la mise en scène aussi était vraiment incroyable.
Sidney Lumet.
Et enfin, le casting. C'est toujours un plaisir de voir déjà John Cazale, qui est un acteur déjà génial dans Le Parrain, et bien là avoir un rôle principal, donc ici celui d'un braqueur qui est mutique, à la fois mystérieux mais très attachant pour le peu qu'il dit et qu'il laisse paraître. Et puis il accompagne là encore, donc comme dans Le Parrain, Al Pacino, qu'on aime tous beaucoup autour de cette table, qui tourne à nouveau donc dans un film de Sidney Lumet après Serpico. Je l'ai revu avec beaucoup de plaisir, c'est ma recommandation de ce mois-ci, et donc si vous avez l'occasion de le voir ou de le revoir, n'hésitez pas.
Je conseille aussi le livre « Faire un film » de Sidney Lumet, qui est, je pense, qui remplace n'importe quelle école de cinéma, qui est incroyable. C'est édité chez Capricci, j'ai l'impression qu'on en parle à chaque recommandation, mais je conseille ce film, et Sidney Lumet, sa filmographie, j'ai l'impression qu'il est un peu oublié, alors que c'est un grand réalisateur. On connaît souvent 12 hommes en colère ou Serpico ou Un après-midi de chien. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres films. Il y a Le prêteur sur gage qui est ressorti il n'y a pas longtemps en Blu-ray. Et surtout, c'est un film Un après-midi de chien, que je recommande de revoir, car je trouve que John Cazale, c'est un acteur qui a tellement été rare, qui n'a fait que 5 films, ouais, qui joue Fredo dans Le Parrain, ouais, et qui a constamment autour de lui une aura tragique, en fait. Et surtout dans ce film, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps, mais dans mes souvenirs, il est effacé, oui, par rapport à Al Pacino, forcément.
Ouais, et même son personnage, en fait, il est très mutique, il est pas très à l'aise, et en même temps, il est très attachant. Pour le peu qu'il parle et le peu qu'il laisse transparaître, il arrive à finalement être très attachant. Et comme tu le dis, c'est aussi parce qu'il y a une aura autour de lui, il a un sacré charisme, il faut le dire. Et je trouve pas qu'il soit si effacé que ça par rapport à Al Pacino. Pourtant, Al Pacino prend évidemment beaucoup de place. Mais c'est un vrai duo.
Dans l'histoire, je me rappelle on va peut-être pas le révéler, mais pourquoi Al Pacino braque une banque, il y a une raison bien particulière de braquer cette banque. Et lui, je ne me rappelle pas le rôle qu'il a par rapport à ça, il n'est pas directement impliqué dans cette histoire.
Il vient l'aider, non, simplement.
Un bon pote.
En tout cas, il a sûrement ses raisons, mais on ne les connaît pas, parce qu'encore une fois, il reste très mystérieux dessus.
Mais écoute, merci, j'espère que ça donnera envie à tout le monde de revoir ce film. Tu parlais d'un film avec un duo, et donc je vais me tourner vers Adeline et lui tendre une perche pour une recommandation, car il y a un film qu'on a vu ensemble la semaine dernière, qui mentionne un duo qui était présent au César, c'est Les Vedettes du Palmacho.
Est-ce qu'ils étaient vraiment présents au César? Je crois qu'ils étaient un peu transparents.
Ils étaient invisibles.
Invisibles, oui.
Il n'y a que Benoît Magimel qui les voyait. Il cherche encore.
oui, on a vu Les Vedettes. C'était un film du Palmacho qui est... un film qui est très très bien, vraiment un film
étonnant,
étonnamment étonnant et assez assez chouette. Vraiment, je trouve que c'est un film qui est frais en soi, qui change un peu des films français, en tout cas de la comédie. En fait, je trouve qu'il y a un truc de comment faire la comédie qui est assez intéressante, parce que et en plus, du coup, le Palmacho, c'était assez rigolo hier qu'il soit là, parce que ça m'a refait penser à Mandibule. En fait, je me suis dit, c'est vrai quand même que Dans Mandibule, je trouvais qu'il y avait beaucoup de lourdeur, enfin quelque chose qui était pas très bien maîtrisé.
C'était pas fluide comme film.
Alors que là, c'est un film qui est touchant, qui est fun, que je regarderai pas demain, je pense, mais que je regarderai bien dans un an.
Oui. J'avais un peu peur que ce soit un sketch du Palmachot, parce que étonnamment, le film de Quentin Dupieux, donc Mandibule, ça ressemblait un peu trop parfois à un sketch du Palmachot étiré. Et là, on retrouve un peu ces personnages, cet univers du Palmachot, qui tient très bien en 3 minutes, mais on peut craindre ce que ça peut faire sur 1h30. Et oui, c'est en fait très bien écrit, les personnages sont tous attendrissants. Il n'y en a aucun qui est jugé, on aurait pu peur que ce soit un peu un effet tuche, où on soit « oh, c'est rigolo, c'est des bofs, etc. » Mais non, je trouve ça intéressant, marrant, et ça sait s'arrêter au bon moment surtout.
Et dans une interview que j'ai pas encore vu le film, mais je compte y aller, dans une interview qu'ils ont donnée, ils disaient justement qu'ils voulaient éviter de jouer des rôles tels qu'ils les ont dans le Palmachot. C'est parce que tu disais, oui, du coup, c'est pas ce qu'on retrouve, et en effet, c'est pas leur souhait non plus. Et petite mention à la raie, à la coupe avec la raie au milieu, c'est David Marseille, en référence à Dwight Schrute. Oui. The Office, une série qu'on aime bien aussi.
Sachant que c'est pas un film du Palmachot, enfin c'est non. Jonathan Barré, je crois.
Oui, c'est ça. Jonathan Barré qui réalise tous les sketchs du Palmachot, mais oui, il faut le citer. Toi, on va passer à toi, Victor, tiens, car tu parlais du dernier train pour la buse.
Exactement.
Et je crois que c'est ta recommandation de ce mois-ci.
Je viens de me rappeler de deux autres recommandations, et avant de parler du dernier train pour la buse, direction la buse d'ailleurs, je vais parler de films plus nostalgie. Et j'ai revu Édouard aux mains d'argent, Édouard Ciseaux-Mains pour les intimes.
C'est un de mes films préférés.
Et ben, je ne me rappelais pas qu'il y avait autant de sous-entendus de cul dans ce film, parce que j'ai dû le voir il y a genre bien 15 ans.
Louis est mis à couvert.
Non, moi ce que j'aime, c'est la poésie dans ce film.
Et c'est très poétique, mais c'est aussi très graveleux.
Et clairement...
J'ai fait mon petit prof de philo et je me suis interprété un peu le film en le regardant. Je me disais, mais est-ce que ce serait pas une critique du puritanisme américain où Edward incarne la sexualité
Le matelado, finalement.
Oui, finalement, bien sûr. Donc, revoir ce film, déjà 15 ans plus tard, c'était très surprenant. Et puis, le revoir avec un œil adulte, c'est encore plus surprenant de voir que j'étais passé à côté de plein de trucs dans ce film. Et pour la nostalgie, tout est bien. Pour le film en lui-même, tout est bien. Pour la chiale à la fin, tout est bien. terrible sous tous les aspects. J'ai vu effectivement le dernier train pour la buse, qui est un chef-d'œuvre, d'après moi. Je l'ai énormément apprécié. J'aurais pas un œil cinéphile suffisamment affûté pour vous faire une super analyse. Mais si vous aimez les films de zombies avec notamment un super aspect psychologique dans la gestion de l'horreur, c'est très très bien.
C'est un film très efficace qui a eu le droit à une suite que je n'ai personnellement pas vue. Je pense pas grand monde n'a vu.
Si.
Ah, bah alors Lucas, est-ce que ça vaut le coup ?
J'ai trouvé ça très en dessous quand même.
Ouais. C'est vrai que dans Train pour Busan, il y avait cette énergie du cinéma coréen. Ces plans dans le train. Je me rappelle de cet homme un peu vieux qui a un bouclier, qui se bat contre des zombies.
Il y avait quand même certaines séquences où tu retrouvais cette énergie. Mm-hmm.
Peninsula, ça s'appelait la suite.
C'est ça, Peninsula.
Et d'ailleurs, c'est une belle transition pour annoncer l'épisode qui sera le prochain. On va enfin parler du Bon, la brute et le cinglé, qui est un film coréen. Et ça sera l'occasion donc de parler plus longuement du cinéma coréen. Toi, Lucas, est-ce que tu as une petite reco ?
J'ai une double recommandation. La première pour refaire un lien avec l'Inde, qui est quand même le sujet de notre émission. Et surtout pour refaire un lien avec l'émission d'il y a 2 mois, où on a quand même pas mal parlé de Paul Thomas Anderson. Eh bien, les deux thèmes se rencontrent dans son documentaire Junoon, qui est sorti il y a, je sais pas, 5-6 ans peut-être.
2015, ouais. Sur Mubi.
Comment ? Sur Mubi, d'accord. Et où il part, en fait, donc Paul Thomas Anderson, il part avec le guitariste de Radiohead, donc qui est Greenwood, parce qu'il est très copain avec Tom York et enfin tout Radiohead, Paul Thomas Anderson. Il part en Inde dans un palais un peu paumé au milieu d'un désert et il part là-bas avec donc Greenwood et il rencontre là-bas ce qui je pense sont des stars de la musique indienne et c'est juste pendant 1 heure, ils font juste de la musique dans un palais entre eux avec plein de musiciens, que des instruments traditionnels et c'est bien quoi.
C'est hypnotisant, j'ai vu
ouais,
du coup.
Mais... Ouais, je me souviens d'une scène, ils sont tout en haut du palais, il y a des aigles qui passent autour d'eux, et ils font de la musique, et les musiques sont géniales, il y a un album qui en a été fait, qui s'appelle Junoon, et c'est super. Et ma deuxième recommandation, là c'est pour faire un lien avec notre hors série sur les étoiles du documentaire, le festival des étoiles du documentaire de la SCAM, parce qu'évidemment on n'avait pas pu aborder tous les films, il y en a 30 et on n'en avait parlé que de 8 je crois, et j'ai rattrapé un de ces documentaires cette semaine qui s'appelle L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres de Manuela Frésil, et c'était super. C'est simple, c'est juste donc cette réalisatrice qui part dans un petit village dans les Cévennes et qui filme un petit groupe, on va dire, de 5-6 personnes qui sont pauvres, des SDF, mais pas forcément des SDF. Il y a surtout un personnage central qui a un son chez lui, mais qui est très pauvre. Il se considère comme un mis-micard, parce qu'il est quand même obligé d'aller faire la manche devant un supermarché. Et c'est quand même un documentaire qui, alors attention à ce que je veux dire, mais qui réussit à te donner envie d'être pauvre. Je vais m'expliquer. C'est évidemment pas son propos. Mais et le titre du documentaire est très parlant, l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, c'est-à-dire qu'elle réussit quand même à capter le bonheur qu'il y a chez ces gens, la simplicité qu'il y en a et le fait de trouver de la joie et de l'intérêt dans des petites choses. Mais évidemment, elle adopte pas ce côté qui serait le summum du bobo, qui est de dire que le cool c'est d'être pauvre. Non, elle rentre pas du tout là-dedans, mais c'est une réalité, ces gens sont pauvres, mais ils trouvent quand même du bonheur entre eux, y a un gros côté striptease, enfin du nom de cette émission belge que j'adule, il y a un gros côté comme ça où on filme ces gens qui font des choses parfois un peu excentriques, et notamment ce personnage principal qui a une idée en tête, c'est de construire une fontaine pour ce petit village des Cévennes, hein, je le répète, mais il veut vraiment construire une fontaine, et il le fait avec de briques et de brocs, mais il est très intelligent ce monsieur, voilà, ça passe très bien, c'est un film qui rend assez heureux, malgré un sujet quand même qui pourrait prêter, je sais pas, à quelque chose de beaucoup plus sinistre, plus glauque, mais voilà, ça s'appelle L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres.
Bah écoute, moi j'ai aussi un documentaire à recommander, qui malheureusement est un documentaire qui vient se lier avec l'actualité européenne. C'est un documentaire de Werner Herzog, évidemment, qui s'appelle Meeting Gorbatchev. Alors Gorbatchev, c'est donc le dernier, premier secrétaire du Parti communiste, qui est de l'URSS, et donc c'est le dernier président, entre guillemets, de l'URSS, qui a fait beaucoup de réformes, la perestroïka et la glasnost, pour parler slave, et des réformes qui, dans l'esprit collectif, ont mené à la chute donc de l'Union soviétique, et plus ou moins à la fin de la guerre froide quand même. Et c'est un documentaire de Herzog qui revient, qui est une discussion, comme le titre indique, avec Gorbatchev, qui a déjà 85 ans dans le film. Et non seulement c'est une discussion, mais c'est aussi un documentaire avec beaucoup beaucoup d'archives intéressantes. Et c'est un film que j'ai vu il y a quelques semaines, donc mi-janvier, quoi, on va dire, et qui est à mettre en parallèle avec un autre style de documentaire qui lui aussi pourrait résonner avec l'actualité, qui s'appelait Meeting Putin, par Oliver Stone. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce documentaire, mais c'était 4 épisodes d'une heure, réalisés par Oliver Stone, qui est un cinéaste dont j'aime bien les films de fiction, ou alors même son film sur JFK, mais qui était déjà très problématique à l'époque, car il n'apportait aucune contradiction au discours de Poutine. C'était presque comme si Depardieu rencontrait Poutine. Et vraiment, des fois, il essayait un peu de contredire donc le président russe. Mais Oliver Stone n'y arrivait vraiment jamais. Et ça faisait parfois presque relais de propagande. Donc c'est intéressant à voir en tant que documentaire. Mais avec toujours, évidemment, un recul très nécessaire. Tandis que Meeting Gorbatchev n'est pas du tout ceci. C'est Herzog qui discute avec ce vieux monsieur qui a été président de l'URSS et qui a plus ou moins mis fin à la guerre froide, même s'il explique que tout le monde a décidé de la fin de la guerre froide en même temps, et qui revient sur sa carrière, sauf que Herzog n'hésite pas à le contredire ou à le mettre face à ses contradictions, en disant oh « oui, vous avez interdit un certain type d'armes nucléaires, mais pas toutes, ou alors sur vous, il y a eu Tchernobyl ». Et il revient donc sur cette histoire contemporaine qui personnellement me fascine, avec Gorbatchev, mais aussi avec d'autres dirigeants de l'époque, notamment le chancelier allemand qui a vu la chute du mur de Berlin, ou des présidents, ou des ambassadeurs américains, français, etc. Et donc c'est passionnant parce que ça permet de revenir sur cette histoire qu'il est nécessaire de comprendre pour comprendre aussi ce qui se passe actuellement en Europe. Et ça revient sur toute la vie de Gorbatchev, qui en voulant malheureusement installer la démocratie dans son pays s'est fait virer et s'est fait remplacer par d'autres personnes beaucoup moins accueillantes, on va dire. Et surtout, c'est un film avec des images d'archives incroyables sur les années 60 en URSS, et des images que personnellement je n'avais jamais vues. Et donc voilà, c'est un film que je recommande, et je crois que tu as vu toi aussi, Adeline.
Oui, je l'ai vu, et c'est vrai que c'est assez intéressant de, aussi, de retracer des étapes de la Russie importantes, notamment de Tchernobyl, des choses comme ça, et aussi de questionner un peu des histoires qui sont vues d'un point de vue très occidental. Moi, j'ai toujours pensé que Gorbatchev, il était un peu coupable en soi et un peu lâche.
Aussi.
Enfin, j'avais une image de quelqu'un de très lâche et qui avait un peu abandonné son pays. Et en fait, du coup, c'est intéressant parce que... Enfin, moi, j'aime beaucoup les formats conversation aussi. Parce que je trouve que t'es beaucoup plus libre et c'est souvent dans les conversations que les gens sont piégés en soi. Enfin, que... pour révéler des choses, mais je trouve que physiquement, quand t'es engagé dans une conversation, et il y a quelque chose qui se démantèle plus que dans l'interview. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi... dans ce documentaire, toute la question de la séduction de Gorbatchev, les cadeaux, comment interroger quelqu'un, en fait.
Qui a eu autant de pouvoir à son époque.
Et ça, c'est ça que j'aime beaucoup, et je sais que dans l'histoire du cinéma, mais aussi de la photographie, les conversations sont intéressantes, et notamment, je fais une recommandation comme ça, mais... peut-être que quand l'émission sera diffusée, il n'existera plus, mais Jean-Marie Le Pen, il y a une histoire de photo très célèbre avec
des bergers allemands.
C'est pas des bergers allemands, c'est une race de chiens.
Des gros
dangereux
chiens.
Qui font peur. Et en fait, toute l'histoire de cette photo qui est assez connue, en fait, je vous invite à la regarder, c'est en fait Helmut Newton qui est un photographe assez connu. Qui en fait a créé une relation de confiance avec Jean-Marie Le Pen et qui, après une séance de photos qui était très calibrée, lui a proposé en fait d'aller dans son jardin et de lui montrer ses chiens. Et en fait, il en a sorti une seule photo qui est Jean-Marie Le Pen en contre-plongée avec deux énormes chiens à côté de lui. Et en fait, c'est assez dingue parce que Zemmour a fait la même photo il y a peu de temps là. Et en fait, c'est intéressant parce que ça n'a pas du tout la même aura. Parce qu'en fait, on sait. Dans Helmut Newton, en fait, dans le travail d'Helmut Newton, que il y a un travail de relation et de discussion. Et en fait, il avait fait une autre photo que je vous invite. Enfin, je vous invite en fait à découvrir son travail, mais avec Leni Riefenstahl, qui du coup est une grande réalisatrice nazie. Et en fait, il faut savoir que Helmut Newton est d'origine juive, en fait, et a perdu beaucoup de sa famille pendant le massacre de la Shoah. Et en fait, il l'a invité à prendre un verre dans un restaurant. Et en fait, il en a sorti une photo, un cliché, où en fait, elle se regarde dans un miroir, un petit miroir de poche. Et en fait, c'est une photo qui est très triste en soi, parce que y a toute la question de la responsabilité, etc. Et en fait, c'est vraiment issu d'une conversation. Donc, je trouve que des fois, ce qu'il y a derrière et ce qui est créé d'une conversation est beaucoup plus fort, en tout cas, dans tout ce qui est audiovisuel.
Oui, je suis d'accord. Et tu fais très bien de différencier interview et conversation. Et en fait, c'est ça qui me dérangeait dans un des deux documentaires. C'est que d'un côté, on avait une interview face à un gars qui était en pouvoir et en place et qui maîtrisait l'image. Tandis que derrière, on a une conversation où c'est le réalisateur lui-même et non pas l'interviewé. Où le gars avec qui il discute, qui est en maîtrise et qui nous donne son propre point de vue. Eh ben merci pour cette recommandation, merci à vous tous pour ces recommandations. On espère que l'émission vous aura plu. On rappelle que la prochaine émission sera diffusée le 1er mai et parlera de cinéma coréen. Et je crois qu'un invité nous a rejoint dans le studio, c'est Gilles Lelouch qui malheureusement n'a pas reçu
César. Tu me regardes pas comme ça, hein. Tu sais pas ce qu'on a vécu.
Merci Gilles, on s'écoute une petite musique tirée de Junoon de Paul Thomas Anderson et on se dit à très bientôt.